et bienvenue sur le podcast Chrysalide. Je suis Léana, plus connue sous le pseudo Léana Daily, et je te parle des backstage de la vie chrétienne. J'ai l'honneur et le privilège aujourd'hui de recevoir deux invités de qualité, Priscille et Mélodie, qui vont nous parler de la famille. Qu'est-ce que c'est que la famille selon le cœur de Dieu? Comment faire pour s'organiser quand on est maman, etc. Donc je vais vous laisser la parole premièrement. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je vais donner la parole à Priscille.
Yes.
N'hésite pas à te présenter.
Oui, alors je suis Priscille, je suis mariée à Jeff et on a 4 enfants de 10 à bientôt 3 ans.
Wow.
Voilà.
Incroyable.
Yes.
Et qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Alors, dans la vie, je fais l'académie,
ouais.
Déjà avec toi, Léana, et Mélodie d'ailleurs. et je travaille aussi pour les Fabuleuses au foyer,
wow.
qui prend soin des mamans qui sont dans l'épuisement, voilà.
C'est vrai que j'ai pas mal discuté avec toi. Je sais que c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, la famille,
ouais.
etc. Donc, je pense que ça va vraiment nous parler.
Yes.
Merci beaucoup. Et toi, Mélodie, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur toi?
Oui, alors moi, donc, Mélodie, je suis mariée à Cédric. Je suis maman de 2 petites filles, 2 ans et demi, 4 ans et demi. Et alors moi, j'ai arrêté de travailler pour me consacrer à l'académie. J'étais chargée de développement commercial pendant plus de 7 ans.
Wow.
Et là, j'ai décidé de suivre, d'obéir à ce que Dieu m'a demandé.
Faire un pas de foi.
Faire un pas de foi, exactement. Et de me lancer complètement pour donc me former et puis servir l'Église.
Wow.
Voilà.
Incroyable. Pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, vous allez peut-être probablement entendre plusieurs personnes dire « je suis à l'académie », etc. Parce que j'ai lancé un nouveau petit concept de podcast spontané avec mes très chers collègues de l'école biblique. On fait tous une école biblique cette année, vraiment dans le but de se former, de connaître un peu plus le Seigneur, ce qu'il a prévu pour nous. Et j'ai eu vraiment à cœur d'inviter Priscille et Mélodie sur ce podcast parce que leur histoire m'a vraiment touchée, leur cœur de maman, leur cœur de parent aussi, ce choix qu'ils ont fait de quelque part obéir à Dieu et de vraiment prendre ces 2 années, ces 2 ans pour Dieu, pour se consacrer à sa parole, avec une famille quelque part. Parce que souvent on se dit « Seigneur, je ferai les choses quand j'aurai le temps, etc. » Mais vous avez choisi d'obéir à Dieu, même avec une famille, même avec des obligations, et je trouve ça juste incroyable. Donc, ma première question pour vous, c'est être maman et servir le Seigneur peut parfois être un vrai défi. Je pense que vous êtes d'accord avec ça.
Oui.
Et comment est-ce que vous le vivez au quotidien, voilà, si vous avez envie de réagir?
En fait, je pense que ça a toujours été une recherche d'équilibre. Après, je pense qu'on est tous différents sur le sujet, mais avec Mélodie, on se ressemble beaucoup. Et en fait, on est plutôt du style fonceuse et on aime faire les choses. Et je pense on s'est toujours dit, il faudra absolument qu'on arrive à s'accomplir en tant que femme et en tant que maman, à pas s'arrêter, voilà. Et c'est vrai que pour moi, ça a été ça le défi, c'était de bien mettre chaque chose à leur place, bien prioriser les choses. Moi, personnellement, dans mon expérience, j'ai eu tendance à pas mettre les choses dans le bon ordre au début et à mettre d'abord le service et après ma famille. Et ça a eu des répercussions.
Mmh.
Et en fait, après, voilà, Dieu m'a vraiment montré comment inverser la tendance. Mais ça a été une recherche, je pense que la clé, c'est ça, c'est de rechercher l'équilibre et puis d'être attentif à sa voix pour que lui, il nous dise comment prioriser les choses, comment mettre les choses dans le bon ordre. Et ça se met en place progressivement, un pas après l'autre. Wow. Je pense qu'on ne le trouve pas tout de suite.
C'est vrai. Et toi, Mélodie?
Oui, alors comme disait Priscille, l'équilibre, c'était la base parce que pour faire l'académie, c'est obligatoire, je dirais, en tant que ma parent. Et d'équilibrer les temps, en fait, les temps pour soi et les temps de qualité avec ses enfants et son mari. Et c'est ça le défi pour moi, c'est les temps de qualité avec mes enfants et mon mari, et pour moi-même aussi le temps pour moi. Après, il y a eu la notion d'obéissance, puisque pour ma part, j'ai vraiment eu ça à cœur, en fait, l'académie. Donc, il fallait que j'obéisse, en fait. Dieu m'a demandé quelque chose, donc j'ai obéi. Parce qu'il y avait une autre notion, c'est qu'on a plusieurs casquettes en tant que parent, en tant que femme, vu que nous, on est des femmes, on est maman, femme de notre mari, et on est aussi fille de Dieu.
C'est ça.
Et en fait, c'est ça que je voulais mettre en lumière, et je savais qu'en obéissant à ce que Dieu me demande, j'allais aussi rentrer dans, dans les projets et les plans que Dieu avait pour moi. Donc vrai. Oui, on a foncé par la foi. Il faut une bonne dose de foi.
C'est ça.
Mais on a foncé et voilà pourquoi
c'est
on est
incroyable.
Là.
Incroyable. Et puis, ils ont quel âge, vos enfants? Je pense que vous ne l'avez pas dit, peut-être que ça peut intéresser aussi.
Alors moi, je disais juste de 10 à 4 ans, mais plus précisément. Donc j'ai une grande fille qui a 10 ans, un petit garçon qui a 8 ans et ensuite j'en ai un qui a 4 ans et un autre qui a 3 ans et demi, bientôt
4 ans. Okay. 2 ans et demi.
Non, 2 ans et demi, bientôt 3 ans, pardon. Voilà.
Wow. Et toi, du coup, Mélodie ?
Alors, 2 ans et demi, bientôt 3 ans et 4 ans et demi.
Ok, écrivez-nous dans les commentaires si vous avez des enfants aussi, quel âge ils ont. Est-ce que ce que disent Mélodie et Priscille, ça vous parle, ça résonne dans votre cœur? Parce que moi, je ne suis pas encore maman, voilà. J'ai pas encore eu cette chance d'avoir des enfants avec mon mari pour le moment. Mais vraiment, je me pose des questions parce que je me dis que, bah, à un moment donné, ça fait partie du processus. C'est pas une obligation d'avoir des enfants, mais pour les gens qui ont vraiment ce désir à cœur, d'un jour se dire, bah, notre vie, elle va changer. Et je pense que ça peut être bien aussi d'encourager les gens peut-être qui n'ont pas encore eu d'enfants et de leur dire que c'est OK de voir sa vie changer et de se dire que ça fait partie du processus tout simplement de la vie. Et est-ce que de votre côté, vous avez trouvé que, oui, certes, il y a eu ce chamboulement, mais que le Seigneur vous a accompagné? Comment ça s'est passé un peu pour vous?
Hello, c'est Léana Delier. Je te remercie pour ton précieux temps. Si tu as été encouragée, motivée et bénie ces dernières semaines au travers des épisodes de podcast, tu as désormais la possibilité de le soutenir en cliquant sur le lien en description. Si comme nous, tu as à cœur qu'un plus grand nombre puisse entendre parler de Jésus, qu'un plus grand nombre puisse comprendre ce qu'est les backstage de la vie chrétienne, tu peux désormais soutenir le podcast pour l'aider à grandir et à se développer. Je te remercie par avance et je te souhaite une bonne écoute. À bientôt.
Ouais, je pense que c'est clair que c'est un vrai chamboulement et je pense que c'est un petit peu dommage qu'on n'en parle pas plus parce que on n'est pas forcément préparé.
C'est ça, bah, c'est clair.
Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu envie de tout faire comme avant, de faire rentrer ce que je faisais rentrer comme avant, en plus de la famille. Et plus j'ai eu des enfants et moins ça a été possible. Et je me suis retrouvée dans un moment où j'étais très très frustrée en fait, parce que je voyais que tout ne fonctionnait pas bien en fait, il y avait trop de choses. Et en fait, il fallait que j'accepte que cette saison, il y avait des choses qu'il fallait mettre sur pause. Des fois c'était le service et c'était ce que Dieu me demandait de faire. Et il a fallu moi pour m'arrêter que je sois épuisée en fait. Ou que je vois ma famille un petit peu se dégrader, mes enfants s'éloigner de moi pour m'arrêter. Donc, parce que j'ai du mal à m'arrêter toute seule. Mais je pense que c'était la façon dont Dieu me parlait aussi.
Bien sûr.
Et je pense que c'est important d'écouter à ce moment-là, de se remettre en question. Et je pense que c'est aussi beaucoup de sacrifices, en fait. Parce qu'on sacrifie des fois des projets. On les sacrifie pour un temps. Mais c'est dur, des fois, de renoncer à certaines choses. Et je crois aussi que Dieu, il voit les sacrifices qu'on fait. C'est des sacrifices de louange, en fait, quelque part. Parce que c'est Dieu qui nous les demande de faire, qui nous demande de le faire pour prendre soin de la famille qu'il nous a donnée. Et en fait, il honore ces sacrifices et il nous bénit encore plus. Et je pense qu'il faut garder un petit peu les yeux sur... sur ça, de se dire que en fait son plan il est parfait. Donc quand il nous dit de nous arrêter, c'est parce que il y a des choses merveilleuses derrière en fait.
Amen. Voilà. Amen. J'aimerais rebondir, Mélo.
Oui. Alors rappelle-moi la question.
Alors attendez. C'était tellement bon ce qu'elle a dit. Je disais que c'est important vraiment de rassurer les gens en se disant que c'est normal et que c'est OK de pas réussir à tout faire comme avant.
Tout à fait.
Et que c'est un changement de saison qui peut parfois être dur à embrasser, mais qui est nécessaire.
Oui, c'est ça. En fait, s'il y a la notion effectivement de frustration, comme disait Priscille, et de culpabilité, qu'il faut absolument gommer, parce que la culpabilité, il n'y a rien de pire, effectivement. Et on ne peut pas, comme elle a très très bien dit, tout faire, en fait, pas cocher toutes les cases. Et il faut lâcher prise, mais vraiment. En fait, il faut être intentionnel sur ça. Il faut vraiment se dire, ben, effectivement, c'est une saison différente. Et c'est là où la discussion avec le conjoint est très importante, dès le départ, puisque pour ces prises de décision, en fait, on sait pas juste Mélodie qui fait l'académie,
ouais.
C'est on fait l'académie ensemble avec
c'est
mon
une
mari.
Équipe en fait.
On est une équipe. Et ça, cette notion-là, faut l'avoir dès le départ. C'est pas juste un parent qui va faire l'académie et puis l'autre qui va attendre pour garder les enfants. En fait, on se complète. Donc, il faut échanger énormément avec son mari par rapport à ça et bien déterminer, entre guillemets, les rôles et le rythme de vie qu'on va avoir puisque c'est un vrai chamboulement.
Bah, c'est ça.
C'est vrai.
Mais
c'est
voilà.
Ça. Surtout que je pense qu'ici, on a aussi quelque part deux femmes qui ont à cœur le ministère.
Oui.
et je pense que peut-être que les personnes qui écoutent cet épisode-là se sentent aussi concernées. Parfois, on a envie de servir Dieu. On a envie aussi d'être là pour sa famille. On a envie d'être là dans son église. On a envie d'être là dans son job. Et des fois, c'est pas facile. Je sais que, bah, par exemple, toi, Priscille, tu es dans la louange. Vraiment, la louange, c'est quelque chose qui résonne fort. Tu as eu l'occasion de chanter avec Dan Lutten, d'aller dans des concerts, des choses comme ça. Donc, en soi, quelque part, ça a été aussi quelque part une décision de se dire, ok, Seigneur, il y a un temps pour tout.
Ouais.
Est-ce que tu veux un peu partager sur ça?
Ouais, j'ai vraiment vécu quelque chose de très fort pour ça parce que c'est vrai que, donc comme tu l'as dit, j'ai eu l'occasion de tourner avec Dan pendant des années et c'est quelque chose qui me nourrissait beaucoup. Et c'est quelque chose qui me correspondait en tant que personne parce que, comme je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui aime bouger, qui aime accomplir, qui aime faire des choses. Et en fait, ça avait pris une importance. Je m'étais pas rendu compte en fait que ma famille en souffrait parce que en plus à l'époque j'étais infirmière libérale, j'avais très peu de repos, de jours de repos. Et finalement, ça arrivait assez souvent que les semaines que j'avais de repos ou les jours, je les prenais pour partir en tournée, par exemple. Et en fait, Dieu a commencé à travailler mon cœur, vraiment, parce que je voyais que c'était intense et que c'était peut-être pas si compatible que ça. Je voyais que mon mari souffrait, et je suis tellement d'accord avec toi, Mélodie, quand tu dis, en fait, on fait une équipe. Et quand quelqu'un s'accomplit dans un service, c'est important qu'il y ait l'équilibre de l'autre côté, que ça peut vraiment être dangereux pour la famille, pour le couple. Et j'ai senti le danger arriver à ce niveau-là. Mais j'ai eu l'occasion en fait de vivre un moment où j'ai dû faire un choix, mon mari a eu un souci de santé alors que j'étais en tournée.
Oh, wow.
Et c'était un moment très fort pour moi que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Et en fait il a eu un souci de santé et je devais rentrer, enfin comment dire, tellement c'était important pour moi, ce moment-là. Je me suis même dit, peut-être je ne vais pas rentrer.
Wow. J'ai hésité.
Ça prenait beaucoup de place dans ton cœur, en fait.
Et c'est là où, quand j'ai hésité, que je me suis dit, waouh, il y a un problème. Et en fait, quelqu'un qui était avec moi à l'époque, alors au moment où j'hésitais, m'a dit, en fait... donc, j'ai discuté avec elle et puis elle me dit, en fait, c'est un peu comme Abraham. Dieu te demande d'apporter ton Isaac, là.
Oh, moi,
est-ce que tu es capable? Est-ce que tu vas aller sacrifier ça, là? Et ça a été une révélation pour moi. Ça a été extrêmement difficile pour moi d'apporter cet Isaac.
C'est ça.
Et de me dire, OK, là, j'ai compris, en fait, Dieu, tu me demandes que je m'arrête pour un temps, peut-être pour toujours, je ne sais pas.
Mais, t'as apporté ton Isaac, quoi.
Et en fait, je savais, quand je le faisais, que ça allait bénir ma famille et qu'il fallait que je le fasse pour que, même pour moi, ça ait un impact dans l'ordre que je disais au début et que ma famille revienne en premier. Et je me souviens avoir vécu le premier jour où je suis rentrée, je suis allée chercher mon mari à l'hôpital, il va bien. Le premier jour où il y avait cette journée, fameuse journée, où pour moi c'était un point crucial dans le service que je pouvais pas vivre, du coup il était très loin de... Puis toute cette famille que je me suis construite aussi, les liens sont très forts. Et en fait, je vivais ce moment comme une rupture sentimentale. Je souffrais dans mon cœur. Mais je ne regrettais pas parce que je savais
qui a fait le bon choix.
Voilà, je savais qu'il allait venir ce choix. Ouais. Et ça a vraiment été le cas. Ça nous a fortifiés. Ouais.
C'est fort ce que tu dis. Et puis même toi, Mélo, avec ton travail, je sais que tu m'avais dit que tu étais à fond, que toi, tu es quelqu'un qui bouge beaucoup.
Oui.
Est-ce que tu veux nous partager aussi comment tu l'as vécu?
Alors, effectivement, moi, j'ai toujours travaillé. On me disait que j'étais une working girl. Donc, depuis que j'ai l'âge de 16 ans, j'ai toujours bossé, en fait, de manière intense. Et puis, pendant 7 ans, donc, j'avais le plus gros département de France en tant que commercial. Donc, je bougeais beaucoup et j'ai toujours donné. Après, je suis tombée enceinte et pareil, je suis du genre à travailler jusqu'à la salle d'accouchement.
Jusqu'à la fin, quoi.
J'ai jamais posé de jour ni quoi que ce soit. Donc, je suis vraiment comme ça, c'est de tempérament. Mais pareil, Dieu m'a demandé de m'arrêter. Et alors, à l'inverse de Priscille, moi, du coup, j'ai consacré le temps pour ma famille. Alors, mes enfants sont jeunes, donc j'ai pas le même recul qu'elles. Mais quand même, grâce à, justement, Priscille, qui sont devant moi, j'ai pu voir, en fait, les potentiels dangers, justement.
Vous êtes super amies, c'est important de le dire.
Tout à fait, oui, on a beaucoup parlé, on a, échangé. Et j'avais, d'ailleurs, cette notion-là, on avait partagé. Elle, entre autres, d'autres personnes. Et c'est vrai que ça m'interpellait et je me suis dit, il faut que je fasse attention. Mmh. Donc moi, en fait, j'ai été travail, ensuite famille. Mais par contre, j'avoue que j'étais enceinte, j'étais quand même dans le service à l'église. Et dès que j'ai accouché, j'ai été quand même à plein temps par Noël. Enfin, j'ai fait des spectacles, des créations et mes enfants étaient tout bébés. Mon mari les gardait, j'étais quand même à l'église à 100%. Mmh. Et c'est là où l'équilibre, pour le coup... J'avoue aussi, j'ai été plus dans le service que chez moi à un moment donné parce que c'est difficile aussi de
partager. C'est bien que vous le dites, partager. En fait. C'est important, je pense, de dire que ça arrive.
Ah, bien sûr, ça arrive. C'est, je vais pas dire que c'est inévitable, mais même en faisant...
Ouais, c'est ça.
Même si j'ai fait attention que je le savais, je suis quand même tombée dedans aussi. Donc après, j'étais à l'église, mes enfants étaient malades et le service continuait. On m'appelait, non, désolée, je peux pas rentrer. Et ça a été ça, en fait. Donc un mari qui va être... frustré ou en panique, enfin voilà, des choses comme ça qui peuvent aussi créer des tensions parce que pendant 8 mois...
D'où l'équilibre, en fait, finalement, c'est tellement important. Moi, je vous écoute et je me dis, mais c'est quelque chose sur lequel il faut que je veille aussi pour maintenant et pour aussi plus tard. Oui. Et comment est-ce qu'on le trouve, cet équilibre?
Je pense que c'est... En fait... C'est en se cassant les dents. Enfin, je pense que peut-être ça dépend aussi des personnes, hein, des personnalités, mais il y en a qui sont très familles dès le départ et qui n'ont peut-être pas ce problème d'équilibre. Je pense que c'est plus dur quand t'as
peut-être.
Oui, puis qu'il y a ce côté où tu sais ce que t'as envie de donner, de faire dans l'église, en fait. Et du coup... c'est difficile aussi parce que là on est dans une église où aussi il y a plein de choses qui sont possibles et qu'on vient nous chercher et que des fois
c'est valorisant,
c'est dire non, c'est ça. Et ça c'est dur. Oui, c'est très valorisant, c'est sûr, on a vraiment la sensation
d'être
utile, exactement. Mais c'est vrai que c'est souvent comme moi c'est mon gros cassage de dents à ce moment-là, ce qui m'a vraiment par exemple, impacté, c'est quand ce jour-là, que je racontais tout à l'heure, je suis rentrée chercher mes enfants chez des amis qui avaient été confiés à des amis parce que mon mari était malade. Ils ne voulaient pas venir avec moi.
Oh, wow.
Et moi, là, ça a été une claque.
Le cœur brisé,
monumentale.
Quoi.
Ah oui, vraiment. Mais je pouvais m'en vouloir qu'à moi-même, en fait.
Ben, oui.
Et c'est là où ce genre de choses font que, OK, plus jamais. Et puis après, ça peut arriver qu'on rebalance pas bien les choses. Et il y a des petites choses qui viennent nous montrer qu'il faut être attentif. Il faut vraiment être attentif. Il faut savoir se remettre en question, je pense, tout simplement.
La sagesse, je pense que c'est quelque chose qu'il faut... Enfin, moi, c'est ce que j'essaye de me dire. En fait, pour avoir l'équilibre, c'est la sagesse. Pour moi, en tout cas, j'essaie tous les jours de me le dire. Est-ce que je suis sage dans mes décisions? Puisque l'équilibre, finalement... Ça faut toujours remettre en question si mon engagement ou ce que je fais, c'est sage. Et si c'est sage, ça veut dire qu'il y aura l'équilibre derrière. En fait, c'est comme ça.
Et même c'est biblique parce que Dieu, il nous dit toujours, c'est Dieu, la famille et l'église et le reste. Et je pense que quand dans cet équilibre là les choses sont pas à la bonne place, c'est là qu'il y a des ordres un peu, comme on dit.
C'est vrai. Et c'est ça,
parce que finalement c'est Dieu ne nous appelle pas en premier à notre service à l'église, même si bien sûr c'est important de pouvoir servir son église, mais le premier ministère qu'on a finalement c'est notre famille.
Exact.
Et c'est là qu'on verra les fruits, et si on n'a pas un équilibre sain dans la famille, on ne pourra pas être efficace dans le service. Et je pense que ça, c'est important aussi de le réaliser, de se dire qu'on aura beau tout donner dans le service, on aura beau vraiment être partout, si dans notre famille, ça ne va pas, ça se ressentira. Et au final, il n'y aura pas l'onction, il n'y aura pas la présence de Dieu comme le Seigneur aurait aimé.
Exactement.
Parce que dans la famille, ça ne va pas. Et je pense aussi que si l'ennemi s'attaque autant aux familles aujourd'hui, c'est parce qu'il sait que si on a des familles en bonne santé, on a une église en bonne santé.
Oui.
Et je pense que ça, c'est important de se le dire aussi et de réaliser que, en fait, plus on va prendre soin de notre famille, et plus finalement, Dieu nous appellera ailleurs parce qu'on aura déjà géré cette tâche. Et ça me fait penser même à ce verset dans la Bible qui dit que Dieu nous donne des choses et si on s'occupe bien des petites choses, il nous en donnera des plus grandes.
Exactement.
Ouais. Donc ça, c'est vraiment un encouragement.
J'ai envie de rajouter un truc, c'est que, en fait, quelque chose de très pratique, mais d'hyper efficace. En fait, moi, ça fait un petit moment que le matin, quand je prie, quand je prends mon temps de prière avec Dieu, ma prière, c'est « Donne-moi l'équilibre ». Et c'est vraiment, je prie pour l'équilibre. Pourquoi ? Parce que quand je ne demande pas ça, parce que ça marche. Et en fait, c'est même pour des choses très simples, c'est-à-dire arriver à concilier les devoirs, les courses, le ménage, tout ça. C'est avec 4 enfants et puis plein d'activités, c'est extrêmement difficile. Mais rien que pour ça, je demande l'équilibre parce que je sais que quand c'est comme si c'est miraculeux. C'est comme si le quand je lui demande ça, les jours où je lui demande ça, tout s'imbrique facilement.
Tout prend place.
Et quand je ne le demande pas, souvent, c'est le chaos.
Comme quoi.
Et en fait, ça retentit aussi sur les portes qui s'ouvrent ou pas dans le service ou quoi, ou n'importe. Mais je pense que c'est une base super solide de prier pour l'équilibre parce que Dieu, il nous inspire, il nous ouvre les portes, il nous les ferme. J'ai l'impression même des fois qu'il nous rajoute des heures sur le cadran quand on lui demande, quoi.
C'est vrai.
C'est très simple.
C'est vrai ce que tu dis. Et puis même, je pense, un principe qui va aider beaucoup de personnes. Dites-nous dans les commentaires, mettez un petit like. Si jamais vous êtes encouragés, abonnez-vous aussi si ce n'est pas encore le cas. Parce que franchement, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que l'équilibre. Même moi, tu vois, aujourd'hui, je n'ai pas encore d'enfant. Mais je demande l'équilibre parce que franchement, c'est tellement facile de se laisser déborder par le travail. Combien de fois mon mari rentre et moi, je suis encore sur mon ordi alors que lui, il s'attend à me retrouver pour passer un temps avec moi. Donc, je pense que ça peut parler même aux personnes qui pas encore d'enfants aujourd'hui, de se dire Seigneur, permets-nous d'avoir l'équilibre. Et d'ailleurs, ça me fait sourire parce que je prie pour ça aussi. C'est tellement important. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi qui pourrait vraiment bénir les gens, c'est comment vous faites comment faire quand on devient maman pour pouvoir continuer à avoir sa routine avec Dieu. Parce que ça, c'est quelque chose aussi, je sais que c'est assez touchy comme sujet. C'est là, tu sais, tu as l'habitude, tu passes 30 minutes, une heure avec Dieu le matin, tu as ton moment de worship, et là, bam, tu as un bébé. Et là, tu ne peux plus faire comme d'habitude. Comment tu fais pour garder cette connexion avec le Seigneur dans cette nouvelle saison de vie? Donc, je vous vois sourire, je pense que vous avez plein de choses à dire.
En fait, il faut être intentionnel, je pense, mais vraiment plus, pas juste se dire, là, il faut le planifier, en fait. Alors, oui, là, tu parlais de bébé. Encore une fois, dans la maternité, les bébés évoluent, évidemment. Donc, il faut trouver son rythme, le rythme du bébé. Au départ, c'est un nourrisson, puis ensuite un bébé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on commence à comprendre son emploi du temps, enfin, comment le bébé fonctionne aussi. Donc, si c'est le côté pratique de est-ce que je le fais à 6 heures du matin, à midi ou le soir, ça va se faire. Il ne faut pas se mettre la pression. Ça s'aménage, en fait, en fonction. Mais après, il faut être intentionnel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire que si on remarque que l'enfant est calme entre 15 et 17 heures et que tu ne travailles pas et que tu es chez toi, tu te dis quoi qu'il arrive, je le fais. En fait, il faut le faire tout de suite.
Il faut être flexible.
Avant toute autre chose. Avant ça, tu peux faire ton ménage ou le repassage. Mais si dès que tu as ton moment là, il faut être intentionnel. Mais je te dis, entre 15 et 16, mais ça peut ne pas correspondre. Il y a des gens qui vont vouloir se lever très tôt ou le faire très tard.
Ouais, moi, c'est ça. C'est-à-dire que si je ne le fais pas le matin, je ne le fais pas.
Voilà.
Je suis vraiment du matin. Moi, ma seule façon de le faire, c'est de me lever plus tôt. et d'accepter que je partage ce moment avec un enfant qui aura envie de se lever en même temps que moi, ce qui arrive très souvent. Oui. Mais c'est pas grave. Et au début, c'était très frustrant pour moi parce que j'ai dit, ah oui, j'ai pas mon intimité.
C'est ça.
Et en fait, de s'assouplir sur la forme, mais que le fond soit là et l'intentionnalité soit là, je pense que c'est vraiment important. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que peu importe le nombre d'heures que j'ai dormi, rester quand même fidèle à mon réveil, c'est pas toujours facile, hein, et c'est pas toujours réussi, mais ça change quand même la donne de la journée d'après. Finalement, c'est beaucoup plus bénéfique d'avoir 20 minutes, 30 minutes de sommeil en moins, mais d'avoir son temps avec Dieu que sans. Ça transforme la journée.
Et je pense même que faut déculpabiliser un peu les choses et dire que Dieu, il est au courant qu'on va avoir cette période dans notre vie.
Ouais.
Et c'est OK, en fait. C'est vraiment OK. Et surtout, finalement, prendre soin de son enfant, c'est aussi adorer Dieu, finalement. Ouais. C'est aussi pouvoir lui montrer qu'on l'aime. Parce que quand on prend soin de l'être qu'il nous a donné, bah, c'est OK, Seigneur, merci pour ce bébé que tu as mis entre mes mains. Merci pour cette nouvelle saison. Je pense que ce n'est pas facile et je ne l'ai pas encore vécu. Donc, je ne sais pas si je suis vraiment légitime de le dire, mais vous allez le confirmer. Mais c'est-à-dire que finalement, Dieu, il veut qu'on embrasse cette saison. Pas qu'on soit dans cette période de culpabilité. Mais de dire, OK, Seigneur, tu as prévu ce temps.
Tout à fait.
Ce temps, il est consacré pour mon enfant et tu vas m'équiper pour. Mm-hmm. Et je pense aussi que d'essayer de voir dans toutes ces petites périodes la main de Dieu de façon différente.
Exactement.
Parce que je sais que je ne l'ai pas vécu dans la maternité, mais dans différentes saisons de vie. Forcément, bah, des fois, tu dois t'adapter. Ouais. Et dans ces périodes d'adaptation, tu apprends à voir Dieu autrement. Mm-hmm. Parce que je pense qu'un des dangers aussi qui peut nous arriver en tant que chrétien, c'est d'avoir une routine et finalement de s'ancrer dans cette routine et ne plus chercher réellement le cœur de Dieu profondément, d'une façon nouvelle. Et je pense que vivre aussi cette saison de maternité peut nous amener à voir le cœur de Dieu au travers de notre bébé, au travers de ces saisons où Dieu va nous porter littéralement. Parce que je pense que c'est pas simple finalement aussi d'être maman et c'est OK de le dire. Mm-hmm. Donc est-ce que vous voulez réagir peut-être sur ça, les filles?
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, je pense que, comme tu te parlais, Mélodie, de la période où quand les bébés n'ont pas encore de rythme, nous on est obligés de subir entre guillemets leur rythme. Et ça peut devenir complètement, on peut être complètement perdu en fait dans nos routines, etc. Et c'est vrai que c'est super rassurant d'avoir des routines. Mais c'est pas forcément possible pour la plupart des parents. Il y en a, ils ont beaucoup de chance, ils ont leur bébé qui font leur nuit tout de suite, etc. Mais c'est quand même une minorité. Et je pense que je suis d'accord avec toi, c'est OK. Et que Dieu, il a compassion de nous, il voit combien c'est difficile. Et je pense que, la routine, c'est bien, mais en fait, ce que Dieu nous demande, c'est de prier sans cesse. Et en fait, de voir sa main dans les petites choses du quotidien, dans les trésors du quotidien, même dans le sourire de ton enfant ou quoi. Et puis de le reconnaître, de dire merci, c'est déjà entretenir ta relation avec Dieu à ce moment-là. Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas se mettre trop de pression là-dessus. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, la culpabilité, pour moi, c'est une arme du diable. C'est ce qui va entretenir le fait qu'on reste éloigné de Dieu parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. Alors qu'en fait, on est dans des circonstances où c'est extrêmement compliqué et on a le droit de se lâcher un peu la grappe sur les choses très conventionnelles et effectivement d'adapter notre relation avec Dieu. Je pense que ce qui est important, comme tu disais encore, Élodie, c'est que c'est l'intentionnalité qui compte, en fait. C'est le cœur qui compte et c'est de garder ce cœur à cœur. Pourquoi pas, si on n'a pas le temps, simplement écouter des chants de louange, une prédication, etc. D'entretenir quelque chose, mais de la forme la plus simple possible. Oui. Moi, je sais que je me mets des podcasts dans les oreilles pendant que je fais la vaisselle, par exemple.
C'est ça.
Parce que j'ai envie de de nourrir ma connaissance et puis ma relation avec Dieu. Mais et il y a des fois
où tu t'adaptes, en fait.
Ouais, c'est ça. Il y a des fois où ben quand j'ai dormi 3 heures dans la nuit, ben comme je disais tout à l'heure, il y a des ratés. Il y a des dans le sens où je n'ai pas mon rendez-vous dans le lieu secret, ou les fois où je commence, ça fait j'ai lu 2 lignes ou j'ai écrit 2 lignes et mon enfant arrive et me saute dessus et me réclame son porridge. Voilà. Donc du coup il faut avoir de la souplesse, quoi.
C'est libérateur, en fait, je pense, pour les gens qui écoutent, de se dire que, en fait, Dieu ne cherche pas des gens parfaits.
Non.
Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Et en fait, Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est juste de faire du mieux qu'on peut.
Oui. Exactement.
Et qu'est-ce que, par exemple, tu dirais, toi, Mélodie, à quelqu'un qui a peur, peut-être, d'avoir un enfant parce qu'elle a peur de voir sa vie changer?
Alors, c'est simple, dans le sens où, oui, la vie va changer, ça, c'est sûr. C'est inévitable puisqu'il n'y avait pas d'enfant et là, il y en a un. Donc là, la vie va changer. Mais alors déjà, il faut tout remettre dans les mains de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut remettre ce projet d'enfant déjà pour commencer si la personne... Voilà. Mais c'est surtout, pour moi, la clé, et c'est ce que je suis en train de mettre en place, c'est d'intégrer les enfants au projet, en fait.
Oh, wow.
C'est-à-dire que là, actuellement, oui, elles ont 2 ans et demi, 4 ans et demi, mais tout de suite, c'est le conseil qu'on m'a donné et c'est ce que là, je suis en train de faire. C'est que je suis à l'académie, elles sont petites, mais elles comprennent. Elles savent que maman fait des études, elles comprennent à leur niveau, mais elles le savent. Et en fait, elles changent, mais dans le positif, parce que pendant que je fais ça, je suis aussi une source de bénédiction pour ma famille, puisque je suis en train de me former pour demain, être équipée pour mes enfants.
Bien sûr.
Mais dans tous mes projets que je vais faire, en fait, là, je fais tout pour les investir dans mes projets.
Wow.
C'est-à-dire que là, j'ai plusieurs projets. Si je dois partir et qu'on doit faire des déplacements, etc., dans ma tête, elles sont avec moi.
Oh wow.
C'est plus un ministère juste de Mélodie, mais j'essaie d'intégrer mon mari et mes enfants.
Ta famille, c'est beau.
Et c'est ça, exactement. Et c'est comme ça que je le vois, c'est le ministère familial, justement, pour plus en souffrir et pour plus que ce soit une souffrance. Et les enfants, en fait, on ne se rend pas compte, mais on a toujours peur, on se dit, c'est l'enfant... Enfin, à cause de l'enfant, je pourrais plus faire ça, mais les enfants s'adaptent, en fait. Ils s'adaptent très, très bien et il faut vraiment communiquer.
Oui.
On s'enferme dans un ministère. C'est moi, je suis appelée, je fais ci, je fais ça. Mais en fait, communique. Dis-le à tes enfants. Dis qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais.
Mmh.
Dis-le à ton mari. Il faut vraiment former tous une grosse équipe.
Mmh. C'est beau.
Et Dieu, en fait, il est dans l'affaire puisque c'est ce qu'il veut, en fait.
Mmh.
On n'est pas... Donc là, c'est vraiment la notion d'unité. C'est le conseil que je donnerais. Peu importe à quoi t'es appelée.
Moi, ça me bénit.
Investis tes enfants. C'est ça. Et
wow.
Je le vois. Il y a des exemples dans l'église ou ailleurs. Hein, et quand je le vois, moi-même, je suis admirative. Je me dis, mais oui, c'est ça, en
c'est
fait.
C'est vraiment beau.
Il faut servir en famille et, et les intégrer.
C'est tellement beau. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Priscille?
Rappelle-moi ta question.
Jamais il y a peut-être quelqu'un aujourd'hui qui a peur, tu vois, d'avoir des enfants, qu'est-ce que tu lui dirais? Parce que ça, c'est vrai que le changement fait peur.
Oui, bien sûr. En fait, le changement, comment dire, il y a deux façons de voir le changement. Le changement forcément entraîne une crise. Pourquoi? Parce que l'équilibre, on reprend sur l'équilibre, mais est brisé. Celui qu'on, le train-train qu'on a, toutes les habitudes qu'on a, elles vont exploser et il va falloir en construire de nouvelles. Donc oui, c'est un petit peu effrayant. Et en même temps, avoir des enfants, c'est un changement qui nous permet de grandir.
Exactement.
Qui nous permet de sortir de notre zone de confort, d'élargir nos limites. Et c'est je pense, peut-être, je ne veux pas être catégorique là-dessus, mais la manière la plus riche et la plus profonde d'évoluer positivement, peut-être négativement, si on ne place pas... notre confiance en Dieu, mais en tout cas, quand on se laisse guider par Dieu, on va vivre des choses qui sont peut-être même difficiles, mais je pense qu'en fait, tant qu'on ne vit pas des choses qui nous heurtent, qui sont difficiles, on ne peut pas changer. Donc,
c'est vrai.
Et en fait, pour moi, le but de chaque homme, c'est de pouvoir s'accomplir, de pouvoir s'épanouir, et les enfants, c'est une source d'épanouissement incroyable, mais il faut être suffisamment souple et à l'écoute. Et se remettre suffisamment en question pour apprendre de toutes les leçons qu'ils ont à nous apprendre. Moi, j'ai mon mentor qui me dit souvent, c'est un peu nos maîtres spirituels, les enfants.
C'est ouf, parce que... Venez à moi,
oui.
Tous. C'est quoi déjà ce verset? Dieu dit que le royaume des cieux appartient aux enfants.
Oui, parce qu'il est pour ceux qui leur ressemblent.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les enfants, ils sont... Comment dire J'allais dire ils sont tout nus. Ils arrivent, ils n'ont pas d'a priori, etc. Et en fait, ils savent prendre le temps d'apprécier les choses, par exemple. Ils savent quand, en fait, ils nous ralentissent parce qu'ils prennent le temps de finir leur petit jouet. Ils sont dans le moment tout présent. Et nous, on est tout le temps pressés. Et en fait, souvent, j'aime bien reprendre cet exemple parce que c'est vraiment l'idée qu'on va leur dire « Dépêche-toi, vite, vite !» Et en fait, parce qu'on ne sait pas nous prendre le temps. Et en fait, on a envie de dire tu me ralentis. Et en fait, on devrait dire merci, tu me ralentis. Parce que je vais trop vite. Et c'est en ça qu'ils sont un peu comme des maîtres spirituels, entre guillemets. Parce qu'en fait, et c'est toutes les frustrations, toutes les difficultés qu'on va rencontrer parce que les enfants nous poussent à ralentir ou à aller au-delà de notre zone de confort. En fait, c'est toutes des leçons qui vont nous servir pour être meilleur, pour être c'est vraiment
mais il faut renoncer en fait quand pour les gens qui ont peur du changement, c'est en fait ne plus avoir les mêmes attentes. C'est ce que je dirais. C'est vraiment ça en fait. Parce que quand tu as peur les gens là, les mamans et papas qui ont peur du changement aujourd'hui, c'est juste mais tes attentes, il faut juste les revoir. Faut pas avoir les mêmes attentes parce que tu ne peux pas en fait avoir tu vas forcément changer et on sait que la vie est dans le mouvement.
Ouais, c'est exactement ça.
S'arrêter, c'est mourir. Donc
c'est tellement ça. Et c'est quoi finalement, moi je me pose cette question personnellement, mais c'est quoi être une bonne mère?
Je pense qu'une bonne mère, c'est tout simplement aimer ses enfants et vouloir le meilleur pour eux. Et ça demande pas une liste de choses à faire, en fait.
C'est vrai.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu veux le meilleur pour eux, où tu cherches le meilleur pour eux, où tu as envie d'être là pour les aider, les accompagner à grandir, j'aime bien l'image du tuteur, en fait, qui est juste là pour leur montrer un petit peu, pour tenir à côté du pied de tomate, pour pas qu'ils partent en live. Mais ils poussent tout seuls, aidés par le tuteur. Et en fait, ils nous sont prêtés, nos enfants. Donc, je pense qu'être une bonne maman, c'est d'essayer de les accompagner au mieux, d'être authentique. Et aussi, ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est s'aimer soi-même. Parce qu'en fait, on aura beau leur dire « tu es merveilleux », etc. Si nous, on ne se dit pas cette chose à propos de nous-mêmes, et ben en fait, on ne leur montre pas l'exemple. Et les enfants, ils ne s'attachent pas à ce qu'on leur dit. Ils voient ce qu'on est. Et c'est ça qu'ils suivent, en fait. C'est ça qu'ils reproduisent. Donc, être nous, la meilleure version de nous-mêmes, être indulgent avec nous-mêmes, être authentique, je pense que c'est la meilleure façon d'être maman, à s'autoriser même à être vulnérable. C'est la meilleure façon d'être maman. Et c'est pas parce qu'on n'applique pas toutes les règles de la parentalité positive ou quoi, qu'on est une mauvaise maman. Parce qu'en fait, c'est impossible de suivre tout ça. Parce qu'on reste humain et qu'on a des réactions. Et souvent, on se met la barre trop haute, tu le dis, Mélodie. On se met la barre, on a des attentes beaucoup trop hautes et ça finit qu'on est tellement frustré qu'on se sent nul. Mais en fait, ce n'est pas possible de suivre ces choses-là. Mais quand on est nous-mêmes authentiques et qu'on montre que la façon dont on est, qu'on essaye d'être des... ça va être un peu des mini-Jésus, entre guillemets, c'est ça,
c'est ça,
hein.
Finalement, un exemple pour nos
enfants. Un exemple, en fait, et d'essayer d'être la meilleure version de nous-mêmes, c'est déjà être un bon parent, je pense.
Offrir des temps de qualité aussi, je trouve que c'est important. Alors là, je suis d'accord avec tout ce qu'elle vient de dire, pour le coup. C'est tellement vrai. Et leur offrir des temps de qualité, mais vraiment, en fait. Parce que dans la vie, comme elle disait, on est... mais vraiment, intentionnellement, tous les jours, même si c'est 10 minutes, vaut mieux 10 ou 15 minutes à fond avec ton enfant que de dire je vais passer une heure avec la tête dans son portable. Tu vois ce que je veux dire?
Exactement.
C'est en ça que je dis. Il faut vraiment remplir aussi le réservoir des enfants. Et je trouve que être une bonne maman aussi, c'est de leur accorder ce temps en fonction de la fratrie à chacun, qu'ils aient aussi ce temps-là, en fait. Je trouve que c'est hyper important. Moi, je le vois avec mes filles, elles en ont vraiment besoin et ça change.
Dans la relation qu'ils ont avec toi.
Oui, c'est ça. Dans la relation.
Dans la façon de se voir elles-mêmes aussi.
Tout à fait. C'est de prendre du temps avec elles et juste. Elles ne me gênent pas, en fait, dans ma journée. Sinon, on a vite tendance. Moi, combien de fois je me suis entendue dire aussi, vite, j'ai pas le temps, je suis pressée, etc. Mais à ce moment-là, en fait, elles sont en priorité et elles voient que je prends du temps pour elles. Je le dis, venez, on va faire ça. Wow. Et ça change tout, en fait, dans la relation. Oh, on crée une relation, en fait.
Franchement, c'est hyper beau. Et puis moi, ce que j'en retiens de cet épisode de podcast, c'est que être parent, c'est pas être parfait, que Dieu nous équipe aussi pour ça, que finalement, on n'a pas besoin d'avoir peur parce que Dieu, il connaît les choses d'avance et il sait que la saison de la parentalité, c'est une saison qui est différente et qu'il n'y a pas de pression à se mettre. En fait, je pense que c'est l'ennemi qui vient aussi pour essayer de nous culpabiliser et que c'est vraiment important d'être ancré en Jésus et qu'on puisse prendre conscience de notre identité, de se dire, ok, mais je suis enfant de Dieu. Dieu, il ne va pas m'aimer parce que je fais les choses. Dieu m'aime parce que je suis.
Exactement.
Et ça change tout, je trouve. C'est déjà la fin de cet épisode. C'est passé très, très vite. Est-ce que vous auriez peut-être un petit mot à dire, quelque chose sur votre cœur pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui?
dans tous les cas, il faut vraiment, et c'est un classique, mais c'est vraiment sérieux, il faut vraiment, le but, c'est d'être dans le plan de Dieu. Donc en fait, il faut vraiment faire des prières, ce qu'on appelle des prières d'écoute et d'être à l'écoute. Prier sans cesse, comme disait Priscille, mais c'est ça, pour savoir au niveau de la saison de vie, est-ce que c'est le moment d'avoir un enfant, est-ce que c'est pas le moment, qu'est-ce que tu veux que je fasse. Moi, ça a été ça, en fait, j'ai vraiment fait cette prière-là. J'ai mis, comme Gédéon, une toison en fait sur ma vie, et j'ai demandé, j'ai envie de te servir et j'aimerais bien aller dans plein de pays, mais j'ai aussi envie d'avoir une famille, je commence par quoi? Et Dieu m'a répondu aussitôt. Mais vraiment, mais parce que là, c'est mon histoire, c'est passé comme ça, mais j'ai vraiment fait une prière très catégorique. C'est aujourd'hui, je veux ma réponse. Et là, très clairement, j'ai dû faire mes enfants, j'ai fait mes enfants, et ça m'a pas empêché quand même d'avoir de rentrer quand même dans le ministère et de rentrer à l'académie plus tard. Mais il y avait cette saison, il fallait faire les enfants. Mais l'académie m'attendait. Je voulais la commencer il y a déjà 4 ans, mais non. J'ai dû être patiente.
T'as été sensible à la saison de ta vie.
Tout à fait. Et c'est ça, en fait, que je recommande, c'est d'être très sensible, d'être patient, d'être sage et de faire confiance à Dieu. Parce qu'en fait, nous, on est pressés, mais Dieu, il a un temps pour tout.
Parce que c'est pas tant une question d'argent d'avoir des enfants, mais c'est une question de saison.
Oui, oui.
Je pense que ça, c'est important de le dire aussi, parce que les gens... parfois vont dire « Oui, mais j'ai pas les finances, Seigneur, c'est pas possible, etc. » Mais il y a tellement de personnes qui, bien sûr, n'avaient pas forcément les finances, mais Dieu a posé sur leur cœur ce désir d'avoir
tout
des enfants. Donc je pense que c'est important aussi de vraiment être plus sensible à la voix de Dieu qu'aux circonstances, même si parfois ça peut être
c'est
dur.
Sûr. Non, c'est Dieu, beau. Il a la fin du puzzle, on l'a pas.
Wow. Oui, c'est vrai. Et toi, qu'est-ce que tu dirais, Priscille?
Moi, je dirais que autant Dieu, quand il nous a créés, il savait ce qu'il faisait, et quand il crée nos enfants, il sait ce qu'il fait, parce qu'il met pour nous les meilleurs enfants pour nous, et on est les meilleurs parents pour eux. Ouais. Par exemple, mes enfants, ça pourrait pas être les enfants de Mélodie. Et en fait, en gros, ils nous équipent quand ils nous donnent des enfants, et ils nous donnent toutes les ressources dont on a besoin pour s'occuper de ces enfants-là en particulier, et puis il faut lui faire confiance sur ça. Et ça, je pense que ça peut enlever la crainte de se dire « je vais pas arriver à être assez bon pour mon enfant si tu as tout ce qu'il faut, en fait. » Il suffit de faire confiance à Dieu. Et quand tu arrives dans une difficulté, c'est bien aussi de pouvoir compter les uns sur les autres. Je trouve que c'est vraiment important de pouvoir discuter de la parentalité avec d'autres parents.
Bien sûr.
Parce que souvent, on a l'impression qu'on est tout seul à galérer. Non. Tout le monde galère,
oui,
c'est dur.
C'est vrai.
Mais en fait, pouvoir partager comme ça, ça nous donne des pistes aussi. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte de partager ses difficultés. Mais il faut vraiment avoir confiance du fait que des fois, on peut trouver qu'on a un enfant un peu intense on a des enfants parfois différents avec des difficultés particulières. Et en fait, il faut vraiment faire confiance au fait que si Dieu nous a donné un enfant un peu particulier, peut-être même...
oui,
vraiment complètement différent. Il nous a donné toutes les capacités avec, et que ça va rouler. Si on est avec lui, ça va rouler.
Amen. C'est bon ce que tu dis. Et je sais pas pourquoi, plus je vous entends parler, et plus vraiment j'ai fort sur mon cœur de pouvoir prier peut-être pour une femme qui a le désir d'avoir un enfant et qui essaye mais qui n'y arrive pas. Je pense que Dieu ne fait rien au hasard. Et si tu écoutes cette vidéo, c'est que Dieu a un plan pour ta vie, que Dieu veut que tu puisses avoir des enfants. Est-ce qu'il y a peut-être une d'entre vous qui aimerait prier pour cette femme? Je vous laisse les filles.
Seigneur, je te prie, Seigneur, parce qu'en fait, on a cette notion que c'est toi qui donnes la vie et c'est toi, Seigneur, qui décide. Tu as un plan pour chaque personne, pour chaque femme, pour chaque famille, Seigneur Jésus. Et vraiment, je te prie pour cette femme peut-être qui est dans l'attente, oui. Seigneur Jésus, et qui est désespérée et qui ne comprend pas. Vraiment, je voudrais dire à cette femme que Dieu te connaît et il connaît le moment en fait où il va donner la vie et qu'il te donnera et donnera la vie en toi, en ton sein. Et vraiment je prie Seigneur pour que tu puisses être encouragée, que tu puisses trouver la paix aujourd'hui et ne pas être forcément en quête absolument d'avoir un enfant, mais juste de trouver la paix du Seigneur et de lui faire confiance pleinement. Vraiment une confiance comme un enfant justement qui viendrait, qui la confiance naïve d'un enfant. Et c'est ça en fait, c'est là où il faut retourner parce qu'on est toujours focalisé sur la destination, alors qu'en fait, il faut te faire confiance. Alors vraiment, Seigneur, je te prie pour cette personne, Seigneur, qui a peut-être ses blessures et qui ne comprend pas peut-être pourquoi c'est pas encore son moment, etc. Vraiment, je te prie afin que tu puisses vraiment l'entourer, Seigneur, de tes bras, afin que tu puisses envoyer, Seigneur, ton Saint-Esprit, Seigneur, ton Consolateur, Seigneur, qui puisse vraiment lui mettre la paix, Seigneur, dans son cœur, Seigneur Jésus. Et vraiment... qu'elle puisse te faire confiance pleinement et que, Seigneur, toi, tu es toujours fidèle, Seigneur, et tu réponds toujours présent, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen.
Amen. Amen. Seigneur, on croit vraiment que tu es le Dieu des miracles. Seigneur, oh, combien de fois tu as agi dans ta parole, oh, combien de fois, Seigneur, on regarde juste l'histoire de Sarah et de Abraham, Seigneur, qui n'avait pas d'enfant, qui ne pouvait pas enfanter, Seigneur, et pourtant, toi, tu as été au-delà de tout ce qu'elle pouvait penser, Seigneur. Tu as été vraiment un Dieu miséricordieux. Tu as vu, Seigneur, son cœur et tu vois aussi le cœur de cette femme qui est là et qui est dans l'attente. Seigneur, je prie vraiment pour que tu puisses souffler un vent nouveau dans sa vie, qu'elle puisse se sentir écoutée, qu'elle puisse se sentir aimée, qu'elle puisse se sentir comprise par toi, Père éternel. Je prie vraiment pour des miracles parce que, Seigneur, tu es le Dieu des miracles et je crois que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement et que les miracles que tu as accomplis dans ta parole, Seigneur, tu es autant capable de les accomplir aujourd'hui. Et on veut vraiment le déclarer, Seigneur, dans le nom de Jésus, je déclare qu'il y aura des témoignages suite à cet épisode de podcast, Seigneur, de femmes qui auront eu des enfants. Seigneur, je déclare la vie en ton nom, Jésus, parce que c'est toi, Seigneur, qui est capable de faire des miracles. C'est toi qui es capable de tout changer. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Merci beaucoup, les filles, pour ce temps précieux. C'était juste incroyable de pouvoir partager autour de ce sujet qui est la parentalité. N'hésitez pas, les amis, à commenter, à mettre une étoile, si jamais des étoiles, si vous avez été bénis, à nous envoyer vos témoignages. Vous pouvez les écrire dans les commentaires ou directement en m'envoyant un message sur Instagram. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.
Bye. Salut.